dans le forum avec Tony Marinaro, on se branche à Habs Radio.
Mon ami, l'excellent Anthony Martineau de TVA Sport qui tweet « Barron in, Struble out ». Donc, j'essaie toujours d'essayer de dire son nom en français comme Justin Baron.
Ouais, Justin Baron. Mais c'est Justin Barron.
C'est Justin Barron. Justin Barron qui va Justin jouer Barron. Ce soir. Denis est là. Denis Gauthier d'RDS, comment vas-tu?
Bonjour Tony, bonjour Alex, comment ça va?
Ça va très bien. Toutes mes félicitations, good. Premièrement, à ton garçon, Ethan. Merci beaucoup. Et à toi et à toute ta famille, parce que ça doit être une fierté immense.
Merci beaucoup, absolument. Ça a été des moments un peu stressants dans les dernières semaines. On savait que l'approche de la nouvelle viendrait. Puis je te dis que c'est un rêve pour Ethan, c'est un rêve pour nous aussi comme famille. De vivre ce moment-là, de pouvoir participer au championnat mondial junior pour Ethan à son tour. Après, deux personnes de la famille l'ont fait avec moi et mon neveu Julien. Ça va être incroyable. Puis je suis juste vraiment, vraiment fier de lui. Puis on va essayer de profiter de ça au maximum.
À l'aube du tournoi, tu vas lui dire quoi là? Si tu as un conseil à lui donner, puis ouais. Ça va être quoi ce conseil-là que tu vas lui donner?
En fait, un conseil, deux choses. C'est un, va t'amuser, ça c'est clair. Ça a toujours été le cas dans tous les discours qu'on a eu à la maison. C'est toujours, t'es toujours meilleur quand t'as du plaisir. Puis l'autre, ben c'est vraiment jouer à son identité. T'as un rôle, t'as une raison pourquoi ils t'ont pris, t'as une identité, puis prends une fierté à jouer le rôle que eux veulent t'avoir dans le tournoi. Donc, s'ils veulent t'avoir comme un gars d'énergie, un gars qui tue des punitions, ben c'est ça. Parce que c'est ici à Drummondville, c'est un gars de premier trio, c'est un gars de plus d'avantages numériques. Là-bas, ça sera probablement pas ça. Mais assure-toi de jouer à ton identité. C'est un gars qui travaille, qui patine, qui a de l'intensité, qui a un bon mélange de talent et d'intensité, d'effort. C'est un gars physique. Fait que joue à l'intérieur de tes limites, mais joue à ton identité. Puis le reste va bien aller. Mais pour moi, c'est deux choses qui sont très, très importantes. C'est qui t'es, puis joue à cette identité.
Oui, ça, c'est un bon conseil parce que, tu sais, on prend l'exemple de Beckett Seneca. Hein?
Ouais.
C'est tout un joueur. Hein? C'est tout un talent.
Oui.
Ils l'ont pas pris, right?
Exact.
Puis s'ils avaient besoin, tu sais, un joueur de talent, peut-être ils auraient pris Beckett Seneca avant un Ethan Gauthier, tu sais, peut-être.
Oui.
Mais le fait qu'ils l'ont pas pris, c'est parce qu'eux autres, ils voient Ethan Gauthier faire un job en particulier.
Oui.
C'est un rôle en particulier.
Oui, la raison est, ben en tout cas, à mes yeux, est quand même assez simple. C'est que, tu sais, ils ont appris de leurs erreurs de l'année passée. L'année passée, ils sont allés avec une équipe qui avait beaucoup, beaucoup de talent. Puis, ils avaient oublié le côté un peu 200 pieds, beaucoup d'intensité. Puis, tu sais, ça n'a pas bien été. Fait que, tu sais, c'est le consensus qu'ils ont eu après la saison passée, une défaite en quart de finale. Fait que cette année, ils ne voulaient pas répéter les mêmes erreurs. Puis, tu as raison, il y a des joueurs qui ont plus de talent pur, qui n'ont pas fait l'équipe. Mais, tu sais, tu as juste un certain nombre de rôles, de personnes ou de joueurs que tu veux dans ce cadre-là, dans ton top 6, dans ton top 7-8, qui vont t'amener de l'offensive, tout ça. Puis les joueurs de profondeur, on s'entend que c'est des gars de premier trio dans chacune de leurs ligues respectives. Fait que, tu sais, c'est des bons joueurs de hockey aussi qui vont aussi être capables de t'amener de l'offensive. Peut-être un Braden Jaeger, présentement, qui est un des meilleurs joueurs au Canada, qui va être à sa deuxième présence au tournoi, mais qui va jouer sur un troisième trio. Pour l'instant, c'est un centre de troisième trio. Mais lui aussi, il a un rôle différent que ce qui est dans son rôle, qui est le dynamo offensif. Fait que, puis, même chose pour Perek, le défenseur qui est surdoué. Tu peux juste avoir un corps arrière sur ton premier avantage numérique. T'sais, si tu en as deux, l'autre, t'as un spot pour ça, mais si tu fais pas ça, tu fais quoi? Si t'es plus à risque défensivement, mais ça vaut pas la peine. On l'a déjà dans notre corps arrière parce qu'on a déjà quelqu'un d'autre. Fait que, t'sais, c'est des décisions de même que les dirigeants prennent. Puis c'est un casse-tête que tu dois monter pour monter la meilleure équipe possible. Puis moi, je suis juste bien fier qu'il ait réussi à rentrer dans ce casse-tête-là.
Denis, avant de parler du Canadien, si c'est mon Montembeau qui va jouer aujourd'hui, c'est lui qui va avoir le départ face au Sabres de Buffalo. Parle-moi de tous les sacrifices que ton gars a fait pour arriver là.
Ben écoute, c'est beaucoup de... sais, ton adolescence, elle est différente que l'adolescence moyenne, je te dirais, parce que tu joues dans une équipe de hockey qui a une certaine rigueur, qui est une mini-ligue professionnelle. Au niveau des intentions, puis des couvre-feux, puis tu sais, d'être adolescent, puis de faire le party toi, fin de semaine, puis de sortir voir tes amis, mais ça, c'est une des choses que tu dois laisser passer pour ton sport, pour ton équipe. Le sacrifice de soi, c'est toujours tu penses à ton équipe en premier, fait que c'est des fois, il y a des choses que toi, t'aimerais mieux faire, des choses que t'aimerais mieux avoir dans ton rôle, dans ce que tu fais dans ton équipe, mais c'est l'équipe en premier tout le temps. Tes étés, tes passeports à te la couler douce à la plage, en bateau, tout ça, c'est l'entraînement, c'est le gym, c'est toujours des sacrifices de 2, 3 camps de perfectionnement, de développement dans l'été, un à Tampa, un à Hockey Canada, puis ça, c'est juste les dernières années, mais au fil du temps, c'est beaucoup, beaucoup d'efforts, puis c'est beaucoup. Ce qu'on regarde le hockey, souvent, c'est les 2 heures et demie qu'on voit à la télévision, puis on dit, ah, c'est facile cette vie-là, puis y a rien là, mais les 22 heures ou les 21 heures de la journée qui restent après ça, c'est il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses qui viennent au niveau du repos, de la nourriture, de l'entraînement, beaucoup de choses. J'aimerais ça manger des Big Mac à tous les jours, mais je peux pas. Tu sais, c'est très bon, mais ça marche pas. Puis je dois faire attention à ce que je fais, puis ce que je dis, puis les réseaux sociaux, puis ton comportement en public. Tu sais, je peux énumérer plein, Tony, des situations de sacrifice qu'il a fait, mais c'est tout ça, c'est dans un but que c'est un petit gars qui a un rêve, qui a une passion. Puis si ta passion t'importe assez dans ta vie pour faire tous ces sacrifices-là, c'est parce que
Ouais.
ça n'en vaut la peine. T'sais.
Avant de parler des Canadiens contre les Sabres ce soir, qu'est-ce que tu as vu dans la défaite de samedi qu'on n'a peut-être pas dit encore dans la défaite à Winnipeg?
Ben, écoute, je pense pas qu'il y a rien qui n'a pas été dit. Je pense que c'est une équipe qui s'est battue, qui a répondu, puis qu'il y avait l'humiliation du Centre Bell de la troisième période du match précédent un peu sur le cœur, puis ils sont sortis fort. T'sais, pour moi, il n'y a pas de doute. On a pris l'avance en début de match. On a donné un certain tempo qu'on n'a juste pas été capable de maintenir. Les Jets de Winnipeg, c'est pas une équipe qui est sur une bonne lancée, mais c'est une des bonnes équipes de la Ligue nationale cette saison en général. C'est une équipe qui a appris à gagner, qui sait gagner depuis quelques années en saison régulière. Fait que t'sais, pour moi, on s'est battu, on a affronté la bête de face, puis on a vendu chèrement notre peau, mais il reste encore des choses à peaufiner dans le jeu défensif. C'est des erreurs des fois mentales, des fois c'est physique, des fois c'est on a besoin d'aide de gardien de but, mais si tu regardes chacun des buts ou des jeux ou des erreurs individuellement, il y a beaucoup de choses là-dedans qu'on peut corriger. Fait que j'ai juste l'impression qu'au moins on avait une bien meilleure attitude, puis on avait l'intention de se faire pardonner la mauvaise sortie contre Pittsburgh.
Quand tu vois que tu t'affrontes une équipe qui a perdu 10 matchs de suite, est-ce que tu te dis c'est dans le sac ce soir?
C'est nature humaine. Puis tu sais, pour vrai, là, je suis pas sûr qu'on peut se permettre d'avoir cette attitude-là contre n'importe qui, mais tu as vraiment l'impression que ça. T'as pas peur. T'as pas peur de te faire humilier, disons ça comme ça. Mais cela dit, c'est une équipe qui est due, c'est une équipe qui est meilleure que la fiche de 0-10 dans la liste dernière. Puis c'est une équipe qui, d'après moi, a eu un coup de fouette. Tout le monde en a parlé avec le propriétaire qui est descendu pour parler à son équipe. On a annulé la pratique. Fait que c'est une équipe qui, d'après moi, va avoir une réponse aujourd'hui, va pousser fort. Puis le Canadien est mieux d'être prêt. Parce qu'il y a des. T'sais, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais des fois, quand tu vois des directeurs généraux, des propriétaires qui descendent, c'est pas pour lancer des fleurs. Des fois, c'est à coup de menace, puis des coups de. T'sais, tu veux pas être ici. Il y a des jobs qui vont être perdus, puis si vous pensez que vous êtes rendu, détrompez-vous. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont jouer avec la peur de sauver leur poste dans ce soir, puis dans les prochains matchs pour Buffalo. Puis je pense que ça vaut autant pour l'entraîneur que le directeur général que les joueurs. Je pense que tout le monde doit saisir le message de Buffalo présentement. Donc le Canadien devra être prêt à affronter une équipe un peu désespérée ce soir.
Denis, comme tu sais, les Canadiens, dans la saison morte, ils ont échangé Jonathan Kovacevic aux Devils de New Jersey. Lui qui joue vraiment du très, très bon hockey pour les Devils cette saison.
Ouais.
Et là, son contrat prend fin à la fin de l'année. Et ça a l'air là, que les Devils sont intéressés à ramener Jonathan Kovacevic. Le Canadien qui a la misère avec des défenseurs droitiers cette saison, il y a eu des matchs où est-ce qu'il y en avait juste un. Ils ont essayé Goulet à droite, ils ont essayé Matheson à droite, puis quand Matheson joue à droite, là, il y a vraiment de la misère.
Ouais.
Quand tu vois Kovacevic jouait tellement bien avec les Devils, une équipe qui était la meilleure équipe que les Canadiens, et ce gars-là, il a 10 points en 33 matchs. Il est un plus 13, beaucoup plus que n'importe quel autre défenseur des Devils. Tu sais, Dougie Hamilton, il est plus 1, Kovacevic est plus 13.
Ouais.
Il joue 20 minutes par match. Est-ce que les Canadiens ont mal évalué la valeur de Kovacevic?
Ben, c'est...
Ou l'importance de Kovacevic?
L'importance, tu sais, des fois, là, on n'apprécie pas les gars quand on les a d'en face, puis on s'en ennuie quand ils partent. Puis c'est pas le premier joueur qui fait subir ça à son ancienne équipe. Je te dirais que c'est au moment où on a pris la décision de laisser partir Kovacevic, ça faisait du sens. Parce qu'on avait une gang de jeunes qui s'en venaient. Puis c'est peut-être là l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on a mal évalué le niveau de est-ce que les jeunes comme Mayhew étaient prêts à faire le saut? Est-ce que Ryan Backer, après avoir peu joué quelques matchs dans l'Américaine, aurait pu peut-être gruger du temps, amener, peut-être se faufiler, avoir un poste à Montréal? Est-ce qu'on a faufilé le développement des joueurs qui sont ici, présentement, comme Barron, comme Struble, comme Jack High, qui ont eu des hauts et des bas chacun à leur tour cette année? Est-ce qu'on pensait qu'il aurait été le meilleur? Il y a plein de facteurs. Fait que, pour moi, là, au moment où on a pris cette décision-là, il faut laisser de la place aux jeunes, puis on pouvait pas non plus penser que notre équipe serait aussi moyenne qu'elle l'est cette saison. On aurait pensé avoir un développement. Est-ce que on n'avait pas pensé que Savard, tu sais, probablement aurait baissé de performance cette année versus l'année dernière. Tu sais, c'est plein de facteurs. Fait que, tu sais, pas de regret. Business is business. C'est que tu as pris une décision de business à ce moment-là pour faire de la place à tes jeunes. Puis maintenant, tu dois vivre avec. Cela dit, c'est un joueur qui était pour moi solide, qui était physique, imposant, qui était quand même bon et constant dans son jeu. Puis il profite maintenant de jouer dans une équipe où il est mieux entouré. À New Jersey présentement, beaucoup plus de talent, donc ça l'aide à mieux paraître. Mais je suis pas sûr que Kovacevic aurait eu 10 points à Montréal au même rythme qu'il l'a fait là au New Jersey. Mais c'est un gars pour moi qui nous aurait été utile cette année.
Denis, très bon article d'Arpin Basu, comme d'habitude, dans l'Athletic, qui parle de Alex Newhook et parle de Kirby Dach et parle des pénalités que les Canadiens sont en train de prendre ou ont pris jusqu'à date. Là. Encore une fois, samedi à Winnipeg, les Canadiens ont été punis à 6 reprises. Les Jets ont marqué des buts importants en avantage numérique. Les Jets, eux, qui avaient un pourcentage de 34,8% avant le match, 6 avantages numériques que tu donnes aux Jets, ils marquent 2 buts en avantage numérique. C'est ça la différence dans le match. Le Canadien en désavantage commence à donner des buts en avantage depuis 4 matchs. Ils ont baissé de 83,5% le 6 décembre pour être 80,2%, donc ils ont baissé de 3e dans la Ligue en désavantage numérique à 14e dans la Ligue en désavantage numérique dans l'espace de quelques semaines. Martin St-Louis a parlé de punition de combativité après le match, puis avait l'air d'être content avec, tu sais, c'est correct de prendre des punitions de compétitivité, mais ça commence à en faire plusieurs que des gars comme Anderson puis des gars comme Kirby Dach prennent cette année, contrôlent pas leur bâton. C'est quoi une mauvaise punition? Puis si, même là, c'est une punition de compétitivité, mais quand c'est toujours les mêmes gars qui les prennent puis ils font mal, explique-moi ça, là. Une bonne pénalité, une mauvaise pénalité, puis les conséquences d'être parmi les équipes les plus indisciplinées de la Ligue.
Ouais, c'est pour vrai, c'est une recette parfaite pour perdre des matchs. Être indiscipliné puis avoir une infériorité numérique qui descend, qui devient de moins en moins efficace, c'est parfait pour descendre au classement, c'est parfait pour donner des victoires à l'adversaire. Évidemment, la règle, c'est que t'essaies de rester à 3 pénalités et moins, 3 pénalités mineures et moins par match. Ça te donne une bonne chance de succès. Des pénalités, il va en avoir. Des bonnes pénalités où t'empêches une chance de marquer, t'empêches ou c'est une pénalité d'intensité lorsque t'es sur un échec avant, puis t'as une mise en échec des fois qui est un peu trop percutante, le joueur tourne, tu le frappes de dos, des choses comme ça. T'sais, des choses que tu vas pardonner parce que tes intentions sont bonnes. T'sais, ça rentre dans le système, ça rentre dans ton éthique de travail, dans la hargne aussi, mais il y a des choses qui te permettent nécessairement de normalement si. Si tu fais correctement, ça se peut que tu évites la majorité des pénalités ou si jamais tu te faisais battre puis tu t'accroches quelqu'un parce qu'il va avoir une chance claire dans l'enclave de marquer, bon, on va vivre avec. Tu as réparé une erreur, puis au moins on a une chance de s'en sortir et non de donner un but. Tu sais, moi, ce que je vois depuis le début du Canadien, c'est beaucoup trop de pénalités de bâton. Tu sais, bâton élevé, accroché, trébuché, des choses comme ça, pour moi, qui sont. Puis le nombre de pénalités qu'on a pris à 200 pieds de notre filet, tu sais, j'ai pas le nombre, mais de mémoire, tu sais, j'en envoie presque à tous les matchs où, tu sais, derrière le filet adverse, on bâton élevé, on termine une mise en échec, ou puis là, bon, on est un peu, un peu reckless en anglais, là, tu sais, on est un peu sans égard, on n'est pas responsable de notre bâton, puis le bâton lève, puis on bâton élevé. Bon, tu sais, ça pour moi, ça a juste plus sa place. Puis, pourquoi on continue de l'avoir? Puis je pense qu'Éric en a parlé dans le bloc hier, mais puis plein de monde en parle. Les conséquences ne sont pas là. T'sais, on accepte de vivre avec ces pénalités et ces erreurs-là de façon un peu trop, pour moi, libre ou légère. Peut-être, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais puis il n'y a personne qui a peur d'y prendre ces pénalités-là présentement. T'sais, même si t'es imputable envers tes coéquipiers, justement, de contrôler ton bâton puis de pas prendre ces pénalités, ces mauvaises pénalités-là, c'est juste qu'à un certain moment donné, tu fais mal au groupe. Tu deviens, en termes un peu, je veux dire, égoïste. Parce que, tu penses à toi, tu penses pas au groupe puis dans le trouble que tu peux mettre ton équipe dedans. Donc, je suis sûr que ça a été adressé dans le vestiaire, mais des paroles ne sont que des paroles. T'sais, à un certain moment donné, il faut qu'il y ait une certaine cohérence puis que ton message soit backé par des conséquences. Puis je n'ai pas vu beaucoup de ça au niveau des mauvaises pénalités cette année. Fait que tant aussi longtemps qu'on va les permettre, j'ai l'impression qu'on va continuer à en avoir plus souvent qu'on devrait en avoir des mauvaises pénalités.
Quatre punitions lors des quatre derniers matchs pour Josh Anderson, quatre punitions lors des cinq derniers matchs pour Kirby Doc. Doc a 10 punitions mineures cette saison. Mais il y en a trois en troisième période. Deux fois, le match était soit égal au Canadien, perdait par un but. Il a pris vraiment au mauvais moment. Une autre fois, il a pris une pénalité en prolongation contre les Islanders, mais le Canadien a tué la pénalité.
Ouais.
Et c'est quelque chose. Tu sais, le Canadien passe plus de temps de punition que n'importe quelle autre équipe dans la Ligue. Là. 5 minutes et 57 secondes par match en train de tuer des pénalités, là.
Tu sais, puis normalement, ces pénalités-là, tu vas les prendre surtout dans une équipe qui a de la difficulté défensivement, tu vas les prendre dans la zone défensive parce que tu te mets à courir dans ton territoire, l'équipe se met à faire, tu sais, avoir une possession de rondelles, du cycling profondément dans le territoire, des rondelles au filet, des retours, des deuxièmes, des troisièmes chances de marquer. Donc, à un certain moment donné, tu fatigues. Quand tu fatigues, bon, ben, t'es un peu en mode désespoir, puis là, tu te mets à accrocher ou tu te mets à retenir, tu sais, une main sur un bâton, une main sur un joueur qui fait que tu retiens ou tu... Fait que, ça, c'est des pénalités-là, mais toutes les pénalités que tu nommes, tu sais, le nombre de pénalités pour moi que Anderson et Doc ont pris dans zone offensive cette année. Tu sais, je serais curieux d'avoir le nombre, mais il y en a plusieurs, là. Tu sais, puis c'est non seulement l'endroit où tu prends ta pénalité, parce que c'est pas nécessaire. En zone offensive, en théorie, c'est pas nécessaire de prendre, tu sais, t'as toujours du monde pour te backer. Si tu fais une erreur, tu fais un repli défensif, t'as 200, 180 pieds pour te reprendre, pour revenir, puis tu sais, revenir réparer ton erreur. Fait, t'sais, ça, pour moi, c'est une grave erreur. Puis l'autre, c'est le temps du match où tu le prends. T'sais, tu me dis, tu prends des pénalités en troisième période, dans les fins de période, début de période, tu sais, les quelques premières minutes, les quelques dernières minutes, prolongation. T'sais, si tu donnes un but à ces moments-là, ça pardonne pas. Souvent, t'sais, en prolongation, évidemment, on s'entend, là, tu perds le match, mais même début et fin de période, ce sont des moments cruciaux de momentum pour ton équipe que tu perds, que tu donnes l'opportunité à l'autre équipe de reprendre le tempo du match, de gagner en confiance pour les 18, 20, les 18 ou 16 minutes qui restent dans la période ou pour te retourner au vestiaire où tu as marqué un but en fin de période à cause que tu as profité d'un avantage numérique que l'autre équipe t'a donné, c'est toujours bon pour une confiance. Donc, tu sais, l'endroit, le temps l'endroit, le temps et la nature des pénalités ont tous une importance dans l'allure d'un match.
On sait pourquoi Martin Saint-Louis a changé son deuxième trio, parce qu'il était lent, il était pas vite. Et là, il a inséré Nua, qui lui a beaucoup de patins. Donne-moi une raison pour laquelle le trio avec Nua, Doc et Liney va fonctionner, puis donne-moi une raison pour laquelle peut-être ça ne fonctionnera pas.
Écoute, la raison pourquoi ça peut fonctionner, c'est qu'il y a du talent sur ce trio-là. T'sais, du talent naturel, il y en a. Doc, c'est un bon passeur. Liney, c'est un bon tireur. Et Nuuk, c'est un bon patineur qui est capable de créer le chaos et chercher des rondelles. Donc, t'sais, si Nuuk est capable de faire ce travail-là comme il faut, va permettre probablement d'avoir plus de rondelles dans les mains de Doc et Liney. Pourquoi ça marche pas? Ben, pour moi, c'est l'éthique de travail de Doc et Liney. C'est aussi simple que ça. T'sais, ils ont le talent naturel. C'est des excellents joueurs de hockey. Ils ont des habiletés élite dans le cas de Liney pour tirer à rondelle. Dans le cas de Doc, c'est un bon joueur de hockey qui est supposé être beaucoup meilleur que ça. Puis quand il était bon avec les Canadiens, il a été très bon. C'est juste que là, présentement, t'as deux joueurs qui patinent pas puis qui sont pas très intenses. Fait que tu te retrouves souvent, tu sais, à moitié chemin en terminer ta mise en échec, créer le revirement. Par le temps que t'arrives, la rondelle est partie. Là, tu te reviens. Tu reviens en défensive. Fait que, puis on n'a pas de possession de rondelle, tu sais, parce qu'on bouge pas les pieds assez vite. Tu sais, Liney et Doc, c'est pas des joueurs qui sont très dynamiques. Fait qu'en possession de rondelle, on se démarque pas, on a de la difficulté à créer de la séparation avec les joueurs défensifs. Puis les statistiques ne mentent pas, là. On est à peu près à 30% du total de tirs marqués lorsqu'ils sont sur la glace. Donc, à tous les 10 tirs sur la patinoire qui sont exécutés sur la patinoire, il y en a 3 par le Canadien, il y en a 7 par l'adversaire. Donc, défensivement, on fait tout simplement pas le travail. Fait que, tu sais, pour moi, ça, c'est une des raisons pourquoi que la chimie tarde à avancer. C'est que tu as 2/3 du trio présentement qui sont pas très vite puis qui ne bougent pas présentement. Je pense pas que c'est pour ça qu'on a mis Nua pour essayer de compenser cette lacune-là. On souhaite pour le mieux, mais tant que Doc ne sera pas un bon joueur de centre pour ses deux alliés, parce que je pense qu'il est capable, mais j'ai de plus en plus de doutes. Mais tant que lui ne fera pas le travail, ça va être difficile pour un deuxième trio d'avoir du succès.
Bon match ce soir, RDS. Merci beaucoup, Denis.
Merci, vous aussi. À bientôt.
Le voilà. Denis Gauthier d'RDS.